Mode de vie, mode d'emploi. Bonjour à toutes et à tous. Comme tous les lundis, nous cherchons dans la vie quotidienne les signes d'une société qui change. Notre thème aujourd'hui, y a-t-il trop de son dans l'espace public ? Nos sociétés l'ont un peu oublié, mais le bruit, et notamment le bruit de la ville, a longtemps été beaucoup plus prononcé qu'aujourd'hui, sans que cela ait, semble-t-il, dérangé qui que ce soit. On trouve d'ailleurs peu de mentions dans la littérature des siècles passés de personnes se plaignant d'un bruit excessif en ville ou même chez leurs voisins, à une époque où pourtant l'isolation phonique n'existait pas et ne faisait, à vrai dire, même pas partie des préoccupations. Ça, c'était avant. Entre-temps, les classes les plus aisées ont créé une norme d'élégance qui passe par le silence et la maîtrise de soi, donc du bruit. Et les vertus de la discrétion se sont diffusées dans la société au point que le bruit nous est devenu de moins en moins tolérable. Aujourd'hui, en ville, c'est une autre forme de bruit ou de son qui apparaît. Un bruit qui n'est plus celui des ouvriers travaillant sur leurs machines ou des cireurs de journaux, ou des crieurs, pardon, de journaux, mais celui inventé par des designers sonores qui créent des logos musicaux, des bruits étudiés pour calmer ou au contraire pour énergiser, des musiques diffusées selon un ordre et une durée particulière, tout cela dans divers buts qui peuvent aller de la volonté de vendre un produit à celle de poétiser l'espace public. Alors, qu'est-ce que le design sonore et musical ? À quoi l'utilise-t-on aujourd'hui ? Et puis, alors que la tolérance au bruit a baissé, y a-t-il trop de sollicitations sonores dans l'espace public ? Telles sont les questions que nous allons nous poser aujourd'hui durant les 40 premières minutes de notre émission, après quoi nous prendrons un moment pour parler du son comme arme. Et à la fin de cette émission, je vous proposerai un entretien avec Claude Askolovitch sur un sujet qui touche aussi aux oreilles, mais de manière différente. Il reviendra sur le chantier compliqué de la Philharmonie de Paris. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h.
France Culture, mode de vie, mode d'emploi.
Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et sur tous ces sujets, trois invités autour de cette table. Louis Dandrel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le responsable de l'unité de design sonore à l'IRCAM, mais vous avez aussi été longtemps journaliste. Vous êtes l'un des fondateurs du Monde de la Musique et ancien directeur de France Musique. À vos côtés, Michael Boumendil, bonjour.
Bonjour.
Vous avez fondé à 23 ans l'agence de design musical Sixième Son, qui crée des identités sonores pour des marques comme Peugeot, Samsung et même le ministère de l'économie. Je ne savais pas qu'il y avait une identité sonore au ministère de l'économie. Qu'est-ce que ça fait comme bruit?
Ça fait qu'au moins, quand vous avez un message de ce ministère, les gens peuvent reconnaître que ça vient de lui et que ça ne vient pas d'un autre acteur. C'est quand même pas mal de pouvoir être identifié pour ce qu'on dit.
C'est des bruits de pièces comme ça
On n'y a pas pensé.
Enfin, Juliette Volclair, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse indépendante et productrice à Radio Galère à Marseille. Vous avez écrit un article dans Le Monde Diplomatique sur le marketing sonore dans la ville, ainsi qu'un livre aux éditions de La Découverte intitulé « Le son comme arme ». Nous en parlerons. Merci donc à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. J'aurais commencé cette émission en revenant un petit peu sur ce que c'est que le design sonore, une notion qui émerge, mais qui reste peut-être un peu floue pour certains. Louis Dandrel, commençons avec vous si vous le voulez bien. Qu'est-ce que c'est que le design sonore et en quoi, alors je vais vous choquer en posant la question comme ça, est-ce différent du bruit et en quoi est-ce différent de la musique ?
Le design sonore appartient au design. Et le design,
Mais les gens savent très peu en fait.
Existe depuis assez longtemps. En fait. Le design, c'est mettre en forme. C'est la fameuse règle des trois F, form follows function, hein, de celui qui a inventé le design.
La forme suit la fonction.
Voilà, la fonction suit la forme. Donc, c'est que pour une certaine fonction, il y a des formes adaptées et on essaie, dans la plupart des cas, de faire des formes qui répondent à une certaine esthétique.
Donc, mais c'est pas uniquement joli.
C'est à la fois c'est fonctionnel puisqu'on se base sur une fonction. Un aspirateur, par exemple, il a une fonction, mais on peut faire des aspirateurs très laids et des aspirateurs qui soient assez beaux et qui flattent l'œil de l'acheteur. Bref, tous les objets aujourd'hui sont un jour ou l'autre passés par le design.
C'était pas le cas il y a encore quelques années.
Non, alors en tout cas dans le domaine du son, pas du tout. Un moteur faisait le bruit qu'il faisait, point. Et puis est arrivé un moment où on s'est dit, tiens, peut-être qu'on pourrait commencer aussi à travailler sur le son des objets. Et ça a donné des aspirateurs qui faisaient beaucoup moins de bruit, etc. Donc c'est tout un champ qui s'est ouvert, on peut dire maintenant, il y a plus d'une vingtaine d'années, enfin 30 ans. Quoi.
Alors vous êtes designer sonore, mais Michael Blumendil est designer musical, c'est ça ?
Alors je laisse éventuellement Louis le loisir de finir sur ce qu'est le designer sonore. Moi j'utilise le mot designer musical parce que c'est vrai que dans le mot design sonore, aujourd'hui en France, on met des métiers qui peuvent être très différents. On peut mettre quelqu'un qui travaille sur le son d'un produit, c'est un peu ce qu'évoquait Louis, mais on y met parfois aussi des gens qui travaillent sur le bruitage d'un film au cinéma. On y met parfois un travail d'ingénierie sonore qui a une vocation par exemple de mix entre différents éléments. Moi mon métier à moi, c'est d'utiliser le son et la musique pour faire en sorte que le rapport entre les marques et leurs clients soit un rapport plus proche, un lien mieux nourri, où à la fois la marque et l'expérience des clients soient enrichies.
Alors, première expérience de design musical, il faut remonter assez loin dans le temps, aller jusqu'à New York et monter dans un ascenseur. Glenn Miller,
oui.
Juliette Volclair.
Je suppose proposé par Musa Corporation ou quelqu'un comme ça.
C'est ça, c'est de la Musac. Alors, oui. Qu'est-ce que c'est la Musac exactement?
La Musac, en fait, c'est un acronyme, c'est la contraction de musique et Kodak, qui a donné nom à
musique
une...
Musique et Kodak?
Oui, voilà. Ça a donné le nom à la société qui a été au XXe siècle la principale société de musique d'ambiance, de musique d'atmosphère, de musique d'ascenseur, selon la perspective qu'on emploie. Et parce que son fondateur, le général George Owen Squire, était un passionné de Kodak et donc est également un passionné de musique. Et c'est lui qui a songé à créer. Bon, il a d'abord créé un dispositif de transmission pour l'armée et puis ensuite il s'est intéressé en fait à la diffusion de musique dans les espaces publics ou les espaces de bureaux, de travail, les espaces commerciaux, les restaurants. Et donc les ascenseurs, qui à l'époque étaient tout nouveaux et faisaient effectivement un petit peu peur, éventuellement, par la durée de l'ascension. Et donc il a monté sa boîte Musac pour mettre de la musique sur demande dans tous ces espaces, avec de différents objectifs, que ce soit apaisé, c'est le cas pour les ascenseurs, dans les usines, notamment au moment de la Seconde Guerre mondiale, l'idée était plutôt de stimuler la productivité ouvrière.
Alors là, c'était pas la même Musac, alors ?
Non, mais en fait, il y avait... Bon, après, on peut rentrer dans les détails, mais Musac avait un procédé très scientifique, ou censément scientifique. Je suis moyennement persuadée, en fait, de son caractère scientifique. Mais en tout cas, ils ont élaboré ce qu'ils ont appelé le stimulus progression, la progression du stimulus, où en fait, ils concevaient des plages de musique qui duraient un quart d'heure et qui étaient censées suivre la courbe de fatigue de l'employé. En l'inversant, c'est-à-dire le moment où l'employé ou l'ouvrier ou l'ouvrière, puisque au moment de la Seconde Guerre mondiale, c'était surtout des ouvrières, était un petit peu fatigué, on mettait une musique un petit peu punchy avec des cuivres qui ressortaient. Et puis le moment où il y avait un petit peu trop d'excitation, où il fallait un petit peu apaiser les esprits, hop, on gommait un petit peu les éléments trop saillants de la musique ou du rythme, et on faisait une musique beaucoup plus soft.
Donc il fallait que tous les ouvriers soient quand même très très coordonnés entre eux.
Oui.
Il fallait qu'ils arrivent exactement au même état de fatigue.
Et oui, c'était... C'est en partie pour ça que j'ai quelques doutes en fait sur le caractère très scientifique, en dépit de toutes les analyses et toutes les preuves, toutes les statistiques qu'a pu produire Musac, c'est qu'effectivement ça s'appuie sur un ouvrier standard, modèle, qui va répondre à une certaine courbe au cours de la journée.
Donc, en même temps, c'est vrai que quand on court, par exemple, avec des écouteurs dans les oreilles, on est davantage motivé, non ?
Oui, 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 certainement. Il y a une des personnes, l'ingénieur Harold Burismeyer, qui a beaucoup travaillé pour Musac, faisait la remarque que, de tout temps, la musique a accompagné le travail.
Louis Dandrel, vous faites une drôle de tête. Ah, c'est parce que quand vous courez sans écouteurs, peut-être.
obligatoirement. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas entendre le bruit de votre pas et tout ça, la cadence du corps, c'est quand même important quoi, quand on court. Enfin, pour ceux qui aiment courir, ceux qui se forcent et qui se flagellent pour courir, ils peuvent faire n'importe quoi.
Ça vous intéresse, vous, quand même, cette musique dite d'ascenseur, enfin cette musique dont on aurait calibré un petit peu les caractéristiques?
Si elle a été composée, oui, pour... Mais quand on fait une utilisation, on exporte de la musique. Mozart dans un ascenseur, j'apprécie pas, quoi. Voilà, c'est juste ça. Mais si on travaille bien, convenablement, pour faire de la musique qui a un service à rendre, mon Dieu, pourquoi pas.
Et là, par exemple, finalement, la frontière est très ténue entre de la musique qu'on pourrait écouter pour ses qualités propres et de la musaque. Je veux dire, Glenn Miller, qu'on vient d'entendre, c'est pas de la mauvaise musique, si ?
Ah non, non. Mais je veux dire, on n'est pas obligé non plus d'aller chercher de la musique, entre guillemets, d'auteur qui existe par elle-même pour avoir de l'utilité. Voilà, ce que j'ai toujours essayé de dire et de faire moi-même, c'est créons, puisqu'il y a un grand secteur, créons des musiques adaptées aux besoins.
Mais il l'a vraiment composé pour les ascenseurs, cette
musique-là. Celle-là,
là ? Ah oui, oui, oui.
Ah bon, bah alors c'est parfait. J'ai été distrait, j'ai pas écouté, vous avez dû le dire déjà.
Je ne sais même plus, il faudra réécouter en podcast. Michael Blumendil ?
Je crois qu'il faut se méfier d'une chose, c'est que Louis parle de l'utilité, pour moi c'est une notion absolument essentielle. D'abord, il faut savoir ce qu'on attend et ce qu'on attend de qui. De façon générale, c'est vrai, on peut comprendre que dans un ascenseur, si vous mettez rien, et si l'acoustique du lieu n'est pas particulièrement travaillée, écouter la machinerie qui fait pas mal de bruit, qui donne des à-coups, c'est pas une expérience très sympathique. À l'inverse, moi j'ai vécu une expérience assez drôle il y a pas très longtemps, j'étais dans l'ascenseur d'un grand établissement bancaire, j'étais au siège, ils avaient décidé de mettre la radio dedans.
Et quelle radio ? France Culture ?
Non, ils n'avaient pas mis France Culture.
Ça détend pas, France Culture, dans les
je me permettrai, à ce stade-là, de ne pas porter de jugement, mais je vais vous donner un exemple. C'était donc une radio généraliste, et ils ont passé un morceau délicieux de Gainsbourg, mais dont on peut dire qu'il était profondément érotique. Eh bien, j'ai quand même vu les gens se regarder en disant « Mais qu'est-ce qu'ils nous mettent ? Quel est le message derrière cette musique ?» Parce que l'ascenseur était bondé, personne ne pipait mot, parce que c'est quand même pas un moment d'intimité. Et donc, tout le monde a perçu cette musique. C'en était presque sympathique tellement c'était à contre-emploi. Mais il faut imaginer quand même qu'il y a un moment, et pour redevenir plus sérieux une seconde, je pense que le design, c'est bien d'associer une fonctionnalité, l'utilité du moment, de la circonstance, avec une expérience émotionnelle, sensorielle, qui est finalement améliorée. Quand on se pose la question de mettre un son ou une musique à un endroit, la vocation, c'est vraiment de créer une expérience meilleure avec que sans.
Alors, on va beaucoup parler des transports dans cette émission parce que c'est un lieu où le design sonore et le design musical est très présent. Les transports et également les couloirs qui mènent au transport, comme ici à la RATP. Juliette Vauclair.
Oui, alors ça c'est un... Effectivement, il y a des sonorisations qui sont réalisées par la RATP. Celui-ci, c'est aux Halles de Paris. C'est pas dans l'enceinte de la RATP, c'est juste en extérieur. Mais c'est lié, en fait, c'est la même démarche. Parce que c'était au moment, donc je pense il y a 2 ans à peu près, où les Halles étaient en grande réfection. Et il y avait des panneaux fluorescents un peu partout pour masquer.
Vous parlez c'est donc au centre commercial des Halles.
Oui, voilà.
D'accord, je me suis trompée. Je pensais que c'était dans les couloirs.
Après, on aurait pu trouver aussi un équivalent. Il y a 2 expériences similaires en fait qui ont été menées par la RATP de manière un peu plus fine, je trouve.
À Opéra, c'est ça ?
À Opéra et à Châtelet-les-Halles. À Opéra, je pense, l'installation est toujours en place. Il y a une diffusion en fait dans un très long couloir avec un escalator, enfin un escalator roulant, hein, pas qui monte, un tapis roulant quoi, tout simplement. Et la diffusion des sons de l'opéra qui sont au-dessus. À Châtelet, j'ai pas pu entendre en fait ce qu'ils ont fait, mais l'idée était de réduire l'impression de longueur de passage du couloir. Tandis que au Halles, c'était visiblement c'était un petit peu à la Disneyland, quoi. C'était un petit peu injecté de la magie au milieu de tous les travaux pour masquer également au niveau sonore tout le réaménagement des Halles. par l'introduction d'un couloir un petit peu psychédélique, quoi, comme ça, au milieu de, entre les deux parties idéales.
Donc c'est le, ce qu'on appelle le fun factor, c'est-à-dire qu'il faut s'amuser à tout moment dans la ville, notamment quand il y a des lieux qui ne sont pas forcément très amusants, c'est ça ?
Bah effectivement, il y a une dimension dans certains types de, d'installations sonores qui sont proposées en ville, il y a une dimension ludique qui est très affirmée, quoi. Le fait de présenter la ville comme un espace de jeu, comme un espace de divertissement, comme un espace parfois aussi un petit peu aseptisé. Effectivement, ça participe après d'un ensemble plus large où il n'y a pas que le sonore qui est convoqué, où ça intervient dans un cadre où le visuel est travaillé de la même manière, l'olfactif pas encore, mais il y a des débuts de marketing olfactif qui se mettent en place en ce moment. Donc,
Est-ce que vous y êtes allé, Michael Boumendil, dans ces couloirs ?
Je le connais. Vous avez raison de parler de fun factor, mais vous dites à tout moment. Je crois que c'est pas à tout moment. Je crois que réellement. Les gens qui s'engagent dans une réflexion sur l'expérience de la ville se rendent bien compte qu'il faut y mettre un peu de fun, pour reprendre votre expression. À tout moment, je ne crois pas. À tout moment, on serait à peu près tous convaincus qu'il y a un moment où la surenchère du son, ça devient une sorte de cacophonie et que ça crée de la fatigue, ça crée de la nervosité, ça ne crée pas de la valeur, ça ne crée pas un mieux d'expérience. À titre personnel, moi, je crois surtout que ce que ça doit apporter, c'est... une sorte de rupture dans un destin stéréotypé que les villes peuvent nous proposer. On voyage tous, on s'en rend compte. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de centres-villes qui deviennent exactement les mêmes. On retrouve les mêmes enseignes, on retrouve les mêmes, je ne sais pas quoi. Mais je discute de plus en plus avec des responsables à la fois et de marques pour la gestion de leurs lieux et de municipalités qui se disent « Oui, on a un lieu sur lequel on a telle fonction ». Mais on veut introduire quelque chose qui relève non pas simplement d'une visite, mais d'une expérience forte.
Le mot expérience est très important pour qualifier le nouveau parcours dans la ville, le parcours qu'on veut faire en sorte d'offrir finalement aux piétons aujourd'hui, une expérience un peu extraordinaire.
À la différence près, c'est qu'il ne faut pas qu'elle soit artificielle. Je prends un exemple basique, j'ai un couloir à gérer, j'ai un espace un peu mort dans un coin de ma ville et pourtant c'est un espace de passage. Si je le laisse comme ça, en quoi je rends ce passage qui pour certaines personnes est obligatoire, en quoi je le rends sympathique ? Je pense que, en tout cas, moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup évoquer, c'est la Crown Fountain qui est à Chicago. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est donc de sorte de grand mur vidéo. C'est un artiste catalan qui a fait ça. C'est devenu un élément fort de cette ville-là. Et à l'intérieur, en fait, il y a des fontaines. Ils voulaient mettre une fontaine dans un parc, ce qui ne me paraît pas une idée complètement saugrenue. Et ils ont décidé d'en faire un lieu d'expérience où, finalement, de temps en temps, ces murs s'habillent de vidéo. Et quand un visage apparaît, que la bouche de ce visage apparaît, et ben de la bouche jaillit de l'eau. Et on a fait de celui-là, qui était censé être une fontaine, entre guillemets, bête et méchante, quelque chose à la fois de beaucoup plus fort en expérience, et aussi de beaucoup plus interactif. Moralité, c'est un lieu qui est devenu iconique de la ville, là au départ où ça devait juste être une fontaine.
Alors Juliette Volkler, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Michael Boumendil ? Est-ce que pour des endroits qui sont des endroits un peu de relégation dans la ville, au fond, ce n'est pas une bonne chose d'avoir une expérience un petit peu sonore qui soit créée artificiellement par des designers sonores ?
Il peut y avoir, oui, tout à fait, un intérêt pour... réhabiller des lieux qui sont délaissés par ailleurs. Après, je pense que naturellement, ça doit se faire dans une démarche plus générale de comprendre préalablement pourquoi le lieu est relégué. Ce qui fait que travailler cette nouvelle matière sonore avec les habitantes et les habitants du quartier, en fait, comprendre le contexte social plus général du lieu et ne pas injecter en fait du design d'en haut, parce que là, je pense que ça raterait complètement son effet. Après, peut-être que j'anticipe sur la suite de l'émission, mais je pense aussi que là, avec ce que vous avez évoqué, en fait, l'apparition la disparition progressive attendue des moteurs à explosion dans la ville, le remplacement par des moteurs électriques, il y a tout un espace sonore qui va se libérer et Actuellement, en fait, il y a une petite ruée, parce qu'elle est quand même pas une grande échelle, il y a une petite ruée vers cet espace qui est en train de se dégager. Est-ce qu'il faut le remplir tout de suite ?
Alors,
je n'en suis pas sûre.
Nous allons en parler, mais d'abord un détour par l'aéroport.
Culture, mode de vie, mode d'emploi.
Mathieu Garrigou-Lagrange.
Alors ça, Michael Boumendil, c'est la musique de ADP, Aéroport de Paris, que vous avez composée. Et pour rester dans le domaine des transports, je vous propose d'écouter un certain nombre de jingles de la SNCF, entreprise iconique de ce point de vue-là. Quatre jingles enchaînés, 1967, 1984, 1993 et 2005.
À destination de Montpellier, va entrer en gare K1 fois 1. Pour votre sécurité, veuillez vous éloigner du bord du trottoir.
Sur pointé, le TGV 621 départ à 12h15 à destination de Lyon-Perrache va partir. Veuillez monter en voiture s'il vous plaît et ne pas gêner la fermeture automatique des portes. Sur pointé, attention au départ.
Mesdames, Messieurs, la SNCF et le personnel d'accompagnement sont heureux de vous accueillir à bord du train express à destination de Paris-Est. Arrivée prévue à Paris-Est, 10h32. Nous vous souhaitons un agréable voyage.
Le TGV 7225 à destination de l'île Flandre va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ.
Alors il y a autour de cette table deux personnes qui ont eu dans la vie des Français, dans la vie quotidienne des Français, un impact quand même assez extraordinaire. Louis Dandrel, vous avez composé l'avant-dernier jingle de la SNCF qu'on vient d'entendre. Et Michael Boumendil, c'est sixième son qui a composé le dernier. Louis Dandrel, alors d'abord, quel souvenir de ce qu'était votre projet quand vous avez composé ce jingle-là, l'avant-dernier donc qu'on vient d'entendre. Et puis, qu'est-ce que, au fond, la succession de tous ces jingles depuis 1967 dit de l'évolution du son dans l'espace sonore?
C'est vrai que c'est un problème d'espace. Avant de travailler à la composition même du son, j'ai enregistré beaucoup de gares.
Ah, vous avez enregistré des gares?
Je suis allé dans les gares à toute heure du jour et de la nuit. Aussi bien grandes gares parisiennes que les gares de province, puisque les signaux sont les mêmes partout en France. Donc je voulais avoir quand même un état des lieux dans lesquels allait être diffusé ce son.
Et les sons sont très différents d'une gare à l'autre. Bon, on imagine que les grandes...
Bien entendu, mais qu'est-ce que ça fait dans un espace qui est extraordinairement réverbérant et puis dans des espaces qui sont beaucoup plus petits, etc. Donc, et puis les gens, leur vie... Bref, moi, il faut que je m'adresse à quelqu'un. Je ne peux pas faire ça tout seul comme ça, mon truc, quoi. Donc à ce moment-là, quand on compose, ben on sait qu'on compose pour des gens. C'est quand même plus agréable. Et donc, fort de ces enregistrements et de ces informations-là, bah, j'ai cherché à faire un logo. Alors, celui que vous avez entendu là, je ne me souviens pas que ce soit moi qui l'ai fait, pardonnez-moi, mais le mien, il faisait tout poudouloupti,
pouloui. Parce qu'en fait, celui que vous avez mis, c'est vous qui l'avez fait, lui, mais c'est celui. Non, ils n'ont pas mis celui de la gare, ils ont mis celui du train.
À l'intérieur du train.
Oui.
Mais même celui à l'intérieur du train, il est pas à moi celui-là.
Ah bon, en tout cas, tout le monde vous le crédite.
Ou alors j'avais bu et je m'en souviens plus.
Mais c'est vrai que celui
sur Internet, c'est vrai que
non, mais ça
tout
fait rien.
Le monde dit qu'il est à vous. Oui.
Méfiez-vous d'Internet.
Mais c'est vrai qu'on n'a pas entendu celui.
Bon, alors, celui qui a été utilisé.
Do, sol, sol,
voilà,
le
qui faisait Do, Sol, Sol, Sol. Oui.
Ah, c'est ça.
Avec une petite
queue. Ah, ça, c'était le vôtre, ça.
Celui-là, c'est
là. Vous pouvez le refaire encore une fois pour qu'on l'ait bien entendu.
Do, Do, Ping, c'est trop, Do, Sol, Sol, Sol. Puis après, il y avait un petit
tout petit
queue. Oui. Mmh. Voilà.
Et qu'est-ce qui avait conduit à l'invention de ce logo-là? Qu'est-ce que vous aviez pensé?
Précisément, quand vous commencez le signal en faisant quelque chose de très clair, qui fait tot, 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 avec le doublement de la le redoublement de la note, tot, 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 tip, déjà, vous attirez l'attention, et puis après, vous faites une jolie petite queue, et à ce moment-là, l'annonce arrive, donc vos oreilles ont fait ça, et vous captez l'annonce.
Alors l'annonce, elle arrive en plus avec des voix qui sont différentes, on l'a entendu selon les années. Donc au départ, c'est une voix extrêmement chantante qui était sans doute la voix du chef de gare, puisqu'il n'y avait pas de voix unifiée.
Exactement.
Et au fur et à mesure des années, on a unifié aussi les voix.
Exactement, oui. Alors là, j'avais fait un casting avec, évidemment, en présence des responsables SNCF. Et les premières annonces, bah, elles ont été faites par, je ne sais plus trop qui d'ailleurs, j'ai oublié son nom, hélas.
Oui.
Mais... voilà,
c'est aujourd'hui, c'est Simone alors qui fait,
Simone
qui, hein, c'est ouais. Ça, qui travaille ici à la Maison de la Radio et tous les gens à la SNCF l'appellent Simone et tout le monde connaît cette voix au fond.
Ouais, ouais.
Absolument.
Comment vous avez choisi la voix de Simone?
D'abord, c'est pas moi qui l'ai choisi. Je pense que c'est à l'époque de Louis, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant quand vous écoutez Louis et qui vous explique comment il l'a composé. Ça nous ramène à la question que vous avez posée sur l'évolution de la société. Louis nous explique que la façon dont il a appréhendé ce travail, il l'a appréhendé à la fois dans la perspective du lieu. Et dans la perspective, vous m'arrêtez Louis si je trahis vos propos, dans la perspective de l'écoute des gens, dans la nécessité que vous aviez de capter leur attention.
C'est juste. Oui.
Si vous voulez juger de l'importance du design sonore et l'évolution vers un design musical de marque, vous pouvez prendre l'exemple SNCF comme exemple assez symptomatique. C'est vrai que dans les années 80-90, quand les marques s'expriment, souvent elles le font en pensant à elles, ou elles le font en pensant à ceux à qui elles s'adressent. Il y a une certaine maturation du design de communication qui fait qu'à un moment, on comprend qu'il faut faire les deux. C'est-à-dire que quand on regarde finalement l'évolution du design graphique de la SNCF, on est passé il y a quelques années d'un logo où on mettait des rails, comme si les gens ne savaient pas que la SNCF, c'était des rails.
Quelque chose de très industriel.
Très industriel et très fonctionnel, a enfin quelque chose, ce qu'ils ont aujourd'hui, qui ne renie en rien la dimension de mobilité de la marque, mais y met de la modernité, de l'innovation et de la bienveillance.
Et moi, de l'humain façon, aussi, peut-être.
Et à vrai dire, l'humain, ça a été plutôt notre vocation chez Sixième Sens quand on l'a créé, et c'était lié à une étude. Et c'est vrai qu'on arrivait finalement, non pas à une autre génération de design sonore, mais on arrivait dans une nouvelle génération de vocation de la marque. Ma perception à moi, c'est que les gens savaient que la SNCF, c'était du train. Ce qu'ils savaient peut-être moins, c'est que la SNCF, c'est de la mobilité. Et surtout que ça n'est pas une entreprise industrielle, c'est une entreprise de service qui se dédie aux voyageurs et qui essaie de le faire avec un maximum à la fois de simplicité et de bienveillance.
Donc ça se traduit avec, par exemple, des voix dans le logo sonore plutôt qu'uniquement de la musique.
Alors,
c'est ça
le travail de Sixième Sens, c'est un moment de se poser la question de comment cette vocation ou cette vision de la marque, on la traduit en son. Oui, on se dit, par exemple, faire simple, quatre notes, faire incarner une voix plutôt féminine, parce qu'on disait encore la SNCF, même si aujourd'hui on dit SNCF. Mais il y a une autre chose qui me semblait intéressante. C'est que nous, on a passé à peu près 6 mois à analyser des lieux de transport qui n'étaient pas que ferroviaires. D'ailleurs, on pourra tout à l'heure, vous faisiez écouter la musique d'Aéroport de Paris, on pourra en reparler. Mais ce qui nous semblait intéressant, c'était aussi de servir la marque SNCF pour valoriser sa différence. Et donc, on a fait des visites en Allemagne, en Italie, aux États-Unis pour voir comment les lieux étaient gérés et comment notre différence, nous, à la SNCF, marque française mais marque leader en Europe, on pouvait trouver notre différence.
Alors, quelle différence?
C'est cette capacité-là à la fois d'être une marque innovante, mais une marque de service. Voilà pourquoi elle est très simple. Vous avez aujourd'hui des logos de marque.
Est-ce que ça s'entend vraiment dans les quatre notes?
Alors, on fait évaluer ça. On arrive aujourd'hui à faire évaluer assez simplement. Et en tout cas, il y a une chose que je peux vous dire, c'est que la notion de bienveillance, qui est une notion clé de cette marque-là, et puis qui est un engagement de la SNCF, libre à vous de juger s'ils y arrivent ou non, mais cette notion de bienveillance, elle est très clairement perçue dans cette voie-là.
Alors c'est aussi un air du temps, parce que tous les logos vont un petit peu dans ce sens-là. On se souvient que le logo de la RATP était également un logo extrêmement technique, qui est devenu au fur et à mesure des années le visage couché d'une personne et qui en même temps représente la scène. Donc c'est la société qui parle à travers vos logos aussi.
Mais bien sûr, mais il faut comprendre pourquoi. Et tout à l'heure, on parlait de cet élément de départ dans l'ascenseur qui est la fonction. Oui, si j'entends la machinerie, c'est moins sympa que si j'entends pas. Quitte à ne pas l'entendre, alors quelle expérience je peux vivre ? Je pense que fondamentalement, ce que ça dit sur la société et les marques qui l'habitent, c'est que finalement, on ne peut pas être nombriliste, on ne peut pas finalement non plus ne s'intéresser qu'à ses clients pour ce qu'ils veulent, mais il faut établir un dialogue entre le lieu ou la marque et ceux à qui elle s'adresse.
Juliette Volkler, un mot peut-être sur le jingle de la SNCF ?
En fait, moi, ce qui m'a frappé en entendant le tout premier, le monsieur à la voix chantante, le chef de gare, et par rapport à ce que vient de dire Michael Boumendil, c'est ce qu'on entend très clairement, en tout cas, c'est l'évolution de la SNCF depuis un service public, avec ce monsieur qui est chef de gare, qui parle avec sa voix propre, jusqu'à une marque, effectivement, qui après se donne une identité sonore et véhicule certaines valeurs à travers cette identité sonore, mais qui est éloignée des métiers, en fait, tels qu'on les perçoit au niveau du public, quoi.
En fait, ça pose la question de l'unification des sons, des logos sonores sur le territoire national pour, par exemple, toutes les... avant, le chef de gare, effectivement, envoyait un jingle qui n'était pas forcément le même dans toutes les gares. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose, Louis Dandrel,
mais
unification ?
Il reste le sifflet,
oui,
qui marche toujours.
Et les flap-flap à gare Montparnasse, ce genre de choses. Mais en fait, le fait de faire du design sonore, il y a une narration qui s'établit sur... la marque ou la SNCF qui est encore quand même aussi, il y a un service public, quoi. Mais il y a une narration en fait qui se surimpose à la fonction première qui est de faire prendre le train et qui se décline. En fait, le design sonore a cette fonction d'ajouter de la narration de valeur aux fonctions premières de la société ou du service public.
Alors, c'est tout à fait juste, mais ça apporte aussi quelque chose d'assez essentiel, c'est l'incarnation de la différence. Nous, quand on a commencé à travailler sur ce travail-là, on s'est rendu compte, et alors je ne sais pas si vous le savez, mais je vous avais fait passer un message, que par exemple, le sonal de Louis, on l'avait retrouvé dans un stade de foot portugais. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il considérait que c'était un bon signal pour annoncer une information. Mais ça, à l'inverse, ça ne disait rien sur celui qui émet l'information. Ce qui est intéressant quand même à un moment, c'est qu'on sache qui nous parle. Quand vous travaillez sur un aéroport, aéroport de Paris aujourd'hui, c'est un grand réalisateur de cinéma qui me l'a dit, m'a dit ce qui est formidable avec votre signature, c'est qu'en deux secondes, je ne sais pas simplement la fonction du lieu où je me trouve, je sais le lieu où je me trouve et je sais un peu cette expérience que lui a appelé romantique parisienne dans laquelle je me trouve. C'est quand même intéressant, ça. Et si le travail est bien fait, ça ne va pas vers des stéréotypes. Ça va au contraire, parce qu'il y a de plus en plus de sons, dans la nécessité qu'a chacun de creuser sa différence.
Alors dans les rues, on entend quand même encore ça. Ça, c'est le bruit que fait le moteur d'une Ferrari. Alors, c'est peut-être pas le bruit qu'on entend le plus dans les rues. C'est également un bruit extrêmement travaillé. Décidément, le domaine des transports est très lié au domaine du son, Juliette Volkler.
Oui, le son des voitures a commencé à être travaillé dès le milieu du XXe siècle. Pas travaillé au sens où on allait réellement décider du son que ferait le moteur, mais travailler au sens où la fermeture de la portière ne devait pas faire un bruit de boîte de conserve parce que c'était extrêmement peu vendeur. Donc il y avait dès les années 40-50 une conscience en fait de la nécessité de travailler le son qui aujourd'hui est arrivé à un stade extrêmement pointu où une des premières marques à avoir réellement travaillé ça très en détail, c'est la marque Audi qui a inventé la notion de corporate sound. Je ne sais pas comment on traduirait en fait.
Le son de marque,
réalité, c'est ça. Et Audi va créer un univers musical, sonore et musical complet. Et par exemple, en ligne, ils mettent un site où on peut s'amuser à faire une composition qui mêle à la fois le bruit des portières, de la fermeture de la boîte à gants, également les musiques qui sont employées.
Alors c'est ça, on retrouve dans les publicités le bruit que fait la voiture que vous achetez.
Voilà, c'est en fait, ils veulent créer un univers sonore complet qui est identifié comme étant l'univers sonore d'Audi immédiatement à l'oreille.
Alors chez Bentley, ils font la même chose, figurez-vous. Ils enregistrent des bruits de vieilles comptoises qui font comme ça tic-tac, tic-tac, et ça devient le bruit du clignotant. Est-ce que vous étiez au courant que chaque marque comme ça
C'est assez amusant comme exemple parce que ça évoque également une des grandes tendances de celle de la nostalgie des sons mécaniques. C'est-à-dire que sur les téléphones portables, une des sonneries qui a longtemps été la plus en vogue, c'est la vieille sonnerie du téléphone de grand-mère. Quand je discutais avec la RATP de l'évolution du design sonore de la RATP, puisque la RATP travaille beaucoup aussi son identité sonore de manière très différente de la SNCF, où la RATP, par exemple, ils utilisent la voix des employés de la RATP pour faire les annonces. Ils ont évoqué la possibilité de réutiliser le clac-clac que faisaient de manière très symptomatique les métros il y a un petit bout de temps déjà. Je ne sais pas s'ils ont décidé de le faire, mais c'est assez paradoxal en fait.
Pourquoi paradoxal ?
Parce que à mesure que disparaissent les sons mécaniques et que les sons qui nous entourent sont de plus en plus des sons numériques, des sons qui sont produits et qui sont diffusés par haut-parleurs. En réalité, c'est ça, la substitution d'un son mécanique naturel qui est le sous-produit de l'activité d'un objet, d'une voiture, de n'importe quelle chose, par un son numérique qui est diffusé par un haut-parleur de la voiture, d'un objet, etc.
Et alors, il y a des sons numériques diffusés par haut-parleur qui sont également amusants, comme celui-ci. Donc ça, c'est diffusé sur des haut-parleurs qui sont sur des scooters Domino's Pizza.
Oui, aux Pays-Bas.
Aux Pays-Bas, pour annoncer en fait qu'ils arrivent, les accidents, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, bon, je pense que les livreurs aux Pays-Bas conduisent comme les livreurs partout ailleurs, c'est-à-dire assez vite. Et Domino's Pizza était dans une démarche de renouveler, dans une démarche de... mettons les grands mots de développement durable ou d'empreinte écologique un petit peu meilleure. Ils ont renouvelé leur flotte de scooters en prenant des scooters électriques. Mais très vite, s'est posé le problème qui est le problème majeur de l'industrie automobile, savoir les scooters électriques ne sont pas audibles, surtout dans la circulation actuelle où il y a des moteurs à explosion. Et du coup, il fallait resonoriser, il faut recréer un son par mesure de sécurité, simplement, pour que les scooters soient audibles. Et donc, Domino's Pizza, bon, c'est une belle boutade, mais qui dit beaucoup de choses, quoi. À sonoriser, je ne sais pas si l'expérience a duré, mais en imitant le bruit du moteur à explosion et en délivrant, par la même occasion, la publicité pour la boîte toutes les 5 secondes. Ce qui pose, justement, c'est un des nœuds de ce qui va se jouer dans les années à venir, la distinction entre signalétique et publicité, qui est en train doucement de se mélanger, de s'entremêler, et qu'il faut justement, ce sera un des enjeux du monde sonore à venir.
Comment on fait, Louis Dandrel, pour investir comme ça l'espace public ? Est-ce qu'il faut légiférer sur le son dans l'espace public ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait ne pas pouvoir faire ? Parce qu'effectivement, si chaque scooter électrique crie le nom de la marque pour laquelle il travaille, ça va être difficile après de se promener dans la rue, non ?
La réponse dépasse un peu mes compétences.
Mais votre point de vue ?
Moi, par principe, je ne suis pas trop penché sur la réglementation. Je préférerais plutôt qu'il y ait une prise de conscience globale et une information qui précède pour qu'on ait cette attitude de respect de l'environnement.
Alors, qu'on va apprendre
ça fait un peu baba bête de dire ça aujourd'hui, mais il n'empêche que tant qu'on ne connaîtra pas véritablement le fonctionnement même de nos environnements urbains, les solutions, elles seront artificielles et ça. Il faut vraiment qu'on en prenne conscience, des dangers carrément qu'on peut apporter en laissant tout ça aller dans tous les sens. Et donc à partir de ce moment-là, on pourra commencer à faire de la création appliquée et qui ait véritablement du sens et de l'efficacité.
Et comment vous-même, parce que c'est une grosse responsabilité quand vous créez des logos sonores, par exemple dans les tramways, Comment est-ce que vous, vous arrivez à vous dire ça, eh ben, ça va, ça n'est pas intrusif?
Je me suis fait prêter pour la ville de Tours, un exemple précis et récent pour moi, c'est que le travail préalable que j'ai fait, c'était on m'a prêté un tram et que j'ai utilisé pendant plusieurs jours, où j'ai fait des enregistrements à l'intérieur du tram, à l'extérieur du tram, j'avais mis des haut-parleurs et tout ça, et pour faire un relevé complet de tous les parcours que je devais avoir à sonoriser.
Alors voilà ce que ça donne. Voilà, ça, c'est quand on change de quartier, Louis Dandrel, en métro, on entend. Là, il y en avait trois qui étaient collés.
Et l'annonce suivi de l'annonce du quartier.
Voilà.
Tout est introduit, tout est chanté. Les annonces sont chantées parce qu'à partir, c'est plutôt gay. Je vois pas pourquoi on est arrivé d'une voix sinistre.
Merci Louis Dandrel. Nous arrivons à la fin de la première partie de cette émission. Merci également Michael Boumendil, vous êtes fondateur de l'agence Sixième Son. Et Juliette Volclair, vous restez avec nous. Dans quelques instants, nous parlons du son comme arme.
France Culture, mode de vie, mode d'emploi.
Mathieu Garrigou-Lagrange.
Jumping Jack Flash, reprise des Rolling Stones par Peter Thomas Sound Orchestra. C'est le dernier volet de ce dossier design sonore avec vous, toute seule, Juliette Volclair. Vous avez écrit un livre intitulé « Le son comme arme » aux éditions de La Découverte, dans lequel vous expliquez que le son peut être aussi utilisé pour faire du mal. On ne peut pas le croire quand on entend cette chanson. C'est dangereux, le son, Juliette Volclair?
C'est dangereux, ça se voudrait dangereux, ça peut l'être dans certains cas. Le son, c'est une onde mécanique qui peut effectivement, quand elle est extrêmement forte, être dangereuse. Après, il y a énormément de ce que j'essaye de déconstruire, énormément de fantasmes autour des usages maléfiques du
oui,
son.
Oui, parce que beaucoup de fantasmes, effectivement, ont circulé. Alors, j'ose à peine citer lesquels parce que c'est pas très hygiénique, mais il est faux de dire que, par exemple, on a les intestins complètement tourneboulé quand on reçoit une fréquence trop importante. Ça, c'est faux. Dans les manifestations doivent oublier, en fait, cette chose-là.
Oui, il ne faut pas trop le craindre. Ou bien, en fait, on serait au préalable déchiqueté par la puissance de l'onde acoustique. C'est comme une explosion, quoi. Donc, en fait, il ne faut pas trop s'en inquiéter. En réalité, les usages les plus efficaces du son par la police et par les militaires, tel qu'on a vu les développer depuis une cinquantaine d'années, disons, sont parfaitement quotidiens, des fréquences moyennes
Alors,
qu'on peut entendre.
Un album de Britney Spears, ce n'est pas une blague, mais c'est une forme de torture utilisée par les Américains,
voilà,
faire écouter Britney Spears à leurs prisonniers à Guantanamo.
Voilà, ça a encore été discuté là, à l'occasion de la nouvelle discussion de l'usage de moyens de torture novateurs, entre guillemets, par les États-Unis.
Mais en quoi c'est si c'est une telle torture d'écouter des albums de Britney Spears?
En fait, c'est n'importe quel son ou de silence, enfin ou le silence qui a très bon le son
le
a très
silence
fort.
Total, c'est une torture aussi
oui,
très
oui,
utilisée.
Oui. En fait, c'est l'absence de variation dans les stimuli sensoriels de manière générale et sonores notamment qui induit en fait une perte d'identité. On a besoin en fait de cette variation de notre environnement sensoriel pour savoir qui on est, pour se repérer dans l'espace et dans le temps. Et à partir du moment où on est dans une chambre anéchoïque, c'est-à-dire sans aucun son, ou bien où on diffuse à fond, en permanence, de la musique, qu'au bout d'un moment, les personnes torturées disent ne plus entendre comme de la musique, mais uniquement en fait, comme des battements en fait, sur eux-mêmes. Là, en fait, on perd complètement les repères. Enfin, la personne perd complètement ses repères et n'est plus du tout capable de continuer en fait un train de pensée intérieur. N'est plus capable de se remettre d'éventuelles tortures physiques qui ont eu lieu au préalable.
Et ça va assez vite, hein. Il n'y a pas
besoin
d'attendre très longtemps.
Oui, en fait, il y a eu des recherches qui ont été établies au sein d'un hôpital psychiatrique qui a été chargé notamment d'étudier ça dans les années 50, l'hôpital de l'Université de McGill au Canada. Et effectivement, on s'en rend bien compte parce que, par exemple, il y a, pendant 48 heures, des étudiants étaient payés pour aller dans une chambre complètement silencieuse, parce qu'au départ, on a plutôt étudié l'impact du silence. Ils étaient payés pour rester dans une chambre complètement silencieuse, avec pas non plus la possibilité de variation au niveau visuel, olfactif ou autre. Et en fait, aucun étudiant n'a tenu plus de 48 heures, alors qu'ils étaient dans des conditions expérimentales annoncés comme tels. Ils étaient en confiance puisque c'était leur professeur qui organisait l'expérience. Ils étaient payés. Et en fait, en quelques heures, on développe des hallucinations extrêmement violentes, des expériences de dépersonnalisation, des cauchemars violents. Et donc, bon, a fortiori, quand ça s'est prolongé sur de très longues périodes. Mais que ce soit du silence, aujourd'hui, c'est plutôt la musique ou le son, du bruit, quoi, qui est utilisé. Ça a le même effet.
Alors, on est heureux d'apprendre en lisant votre livre que les Français n'utilisent pas ce genre de torture.
A priori, non. Il n'y a pas eu de. Voilà. En tout cas, je n'en ai pas trouvé trace dans mes recherches.
En revanche, d'autres pays utilisent des avions de chasse. Oui. Pour passer au-dessus des villes.
D'autres pays et plus spécifiquement Israël.
Alors, passe au-dessus de Gaza, c'est ça ?
Oui, voilà, de la bande de Gaza notamment, à très basse altitude, pour franchir le mur du son à très basse altitude. Et en fait, le franchissement du mur du son, les gens qui habitent dans des zones d'entraînement d'avions de chasse le savent, ça crée une explosion forte et aussi une onde de choc. Donc si c'est à haute altitude, ça n'a pas tellement d'impact, mais si c'est à basse altitude, toutes les vitres se cassent, les murs se fissurent. Et au niveau psychologique, les enfants ne peuvent pas dormir, ils sont absolument
paniqués.
Parce
qu'on attend le prochain bang.
Voilà, en fait, les avions de chasse de l'armée israélienne le font surtout la nuit ou au petit matin. Et c'est un impact sanitaire, médical extrêmement fort en fait sur la population de Gaza ou des territoires occupés en général. Et il y a un rapporteur de l'ONU qui disait qu'il y avait un problème de surdité très répandu dans ces territoires. Et au-delà de la surdité, les femmes enceintes font des fausses couches beaucoup plus fréquentes. Des enfants qui font des terreurs absolument insurmontables. Enfin bon, ça c'est loin d'être anodin en fait comme technique de guerre.
Et alors toujours dans l'espace urbain, mais d'une autre manière, il y a les armes anti-manifestants et aussi les sons anti-jeunes. Alors c'est plus connu ça, sons anti-jeunes, les ultrasons.
Voilà, ce sont pas des ultrasons. Ce sont des sons extrêmement aigus, effectivement. Là, on parle pour les sons anti-jeunes. Le répulsif anti-jeune, qui s'appelle le mosquito. Bon, il y a d'autres
variantes.
Vous
l'avez entendu, le mosquito ?
Ben non, parce que justement, une des propriétés de l'oreille humaine, c'est qu'elle vieillit très vite et que très vite,
elle
n'entend plus les hautes fréquences. Disons que, bon, à moins d'avoir une très bonne audition, au-delà de 25 ans, on n'a plus l'entendre. Et c'est tout l'intérêt, en fait, c'est que ça cible une partie de la population. En fait, c'est un son très aigu qui est diffusé à 90 décibels, ce qui n'est pas gigantesque, mais ce qui atteint en fait le seuil de gêne de l'oreille humaine. Et bon, on n'a pas envie de rester sur place.
Il y en a beaucoup dans les villes.
Il y en a beaucoup dans certains pays et dans d'autres non. En France, par exemple, la réception publique et la réception de la classe politique a été très mauvaise. Et donc, il y en a quelques-uns, notamment des syndics d'immeubles dans le sud de la France qui s'en sont équipés. Ensuite, bon, il y a eu une jurisprudence défavorable en France, puisque le tribunal de Saint-Brieuc a demandé à un particulier d'enlever un mosquito qu'il avait installé sur la façade de sa maison, parce que justement, il disait qu'il y avait une gêne qui pour tout un ensemble de la population, et qu'il n'y avait pas lieu en fait de cibler une partie de la population, de gêner des personnes qui passaient sur le trottoir simplement. Mais en revanche, il y en a beaucoup, par exemple aux États-Unis, c'est utilisé dans des écoles. Les mosquitos sont mis en place à la sortie des cours pour que les étudiants ne restent pas en fait à discuter devant, ou bien devant. En Grande-Bretagne, c'est dans les McDo, enfin sur la façade des McDo, ou bien dans les transports en commun.
Merci beaucoup Juliette Volclair. Je rappelle votre livre, Le son comme arme, c'est aux éditions de La Découverte. Dernier moment de notre émission consacrée aux oreilles et à la ville. Vous le savez sans doute, la capitale de la France s'est dotée d'une nouvelle salle philharmonique dont l'acoustique est considérée comme exceptionnelle. Et heureusement, serait-on tenté de dire, étant donné les difficultés et les dérives qui se sont succédées lors de la construction de cette salle. Je suis allé voir le journaliste Claude Askolovitch qui a enquêté pour Vanity Fair sur ce chantier qu'on pourrait dire maudit. Et voici l'entretien qu'il m'a accordé. Claude Askolovitch, l'inauguration de la Philharmonie le 14 janvier dernier a été marquée par l'absence spectaculaire de Jean Nouvel, son architecte. Vous l'aviez rencontré durant le chantier, c'était au printemps 2013. Est-ce que vous vous souvenez de son état d'esprit à l'époque ?
Il était malheureux. Il a été malheureux, Jean Nouvel, pratiquement du début à la fin de cette histoire. C'est pour ça qu'il n'est pas venu. Au départ, c'était le rêve absolu. Hein. Le plus grand architecte français, le prix Pritzker, qui enfin allait réaliser la plus belle salle de concert du monde dans sa vie, avoir cette reconnaissance absolue, travailler pour l'éternité. Ça a l'air un peu bizarre quand on en parle comme ça, mais c'était quelque chose qui était presque une réalité charnelle pour Nouvel. Il voulait cette philharmonie, voulait en faire quelque chose de mémorable. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que aussi bien l'État que la ville de Paris, on parle là des années 2007, quand le chantier a été attribué, quand le travail a été attribué, voulait Nouvel également. Il y a eu énormément de soupçons autour du jury, autour de l'attribution de la Philharmonie à Nouvel. Tout le monde sait, dans les milieux d'architecture, que Solaire, son rival, avait l'assentiment, l'approbation de la composante architecte du jury. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été donné par les politiques contre les architectes, le jour de l'attribution.
Et pour quelle raison, selon vous ?
Il y a eu des soupçons sur, on va dire, la non-opacité, sur le fait que les politiques ou que les membres du jury savaient que c'était un projet Nouvel qui était reconnaissable. On ne sait pas. Ce qu'on sait en revanche, c'est que le projet, mais l'appel d'offres aussi, était sous-estimé en termes financiers. C'est-à-dire que c'est triché. C'est une attribution qui est trichée au départ, mais tout le monde est dans la triche. C'est-à-dire que très vite, très tôt, ce projet, qui est évidemment magnifique, mais qui a été sous-estimé financièrement, aussi bien par les demandeurs, État, Ville de Paris, que par le concepteur Jean Nouvel, bien, se fracasse sur la réalité. C'est-à-dire qu'on le construit, il va se faire, mais il coûte trop cher. Mais coûtant trop cher, on n'aime pas, et on en a honte. Et coûtant plus cher que ce qu'avait dit Nouvel, Nouvel est rémunéré à hauteur de son mensonge initial, mais pas à hauteur de ce qu'il voudrait. Et donc il va passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, hein, 2007-2014, 6 ans et demi, à réclamer plus de moyens, à se trouver mésestimé. Les autres en face, les donneurs d'ordre, les politiques, la maîtrise d'ouvrage, l'association Philharmonie, vont passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans à trouver que Jean Nouvel a menti, exagère, en demande trop, fait des blocages, ne signe pas les ordres pour construire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Le projet manquera d'être arrêté. On connaît l'histoire, elle a été racontée 100 fois au moment de la grande crise économique, le grand crack de 2008. Bien, le projet est bloqué. François Fillon et les gens qui tiennent un peu les cordons de la bourse à la mairie de Paris aussi, hein, n'en veulent pas. Il faudra que Delanoë s'implique et que Sarkozy décide pour qu'on y aille. Mais on n'y va plus dans l'enthousiasme, qui était le magnifique enthousiasme du début.
Alors il y a une autre chose étonnante, c'est que Christian de Porzamparc, qui a construit la première partie de la Cité de la Musique, n'est pas retenu pour en faire la seconde partie. Claude Askolovitch, est-ce que vous, dans votre enquête, vous avez senti, compris un peu pourquoi, au fond, cette salle de concert n'a pas été faite par celui qui avait commencé la Cité de la Musique, Christian de Porzamparc ?
Parce qu'il y a eu énormément de temps entre le moment où la Cité de la Musique est construite et le moment où on est passé à la Philharmonie. Et effectivement, Christophe Porzampa, qui est, comment ils disent les Américains, was not welcome. On lui propose de faire partie du jury. Si on fait partie du jury, on ne peut pas concourir pour la Philharmonie. Il veut concourir quand même, il se fera écarter. Il en gardera énormément de malheur. Parce qu'effectivement, la Cité de la Musique telle qu'on l'a connue jusqu'à maintenant était un projet inabouti. Mais ça, c'est les heurts et malheurs des desiderata de l'État, des foucades de l'État, des grands projets de l'État, les heurts et malheurs de l'amour, plutôt du non-amour pour la musique classique en France. On est un pays latin, paraît-il, on m'a expliqué qu'on préfère toujours l'opéra. Donc on a fait l'opéra Bastille avant de faire une grande salle de concert. À la limite, peu importe. Le malheur de Porzampa, qui est réel, hein, c'est une blessure, je l'avais rencontré, s'ajoute au malheur de Soler, qui aurait dû faire la Philharmonie, mais s'ajoute aussi au malheur du vainqueur. Ce qui est passionnant dans cette histoire et terrible, c'est que le vainqueur Jean Nouvel, l'homme qui pour l'éternité aura créé un bâtiment que je trouve, moi, absolument magnifique, mais aura vécu tout aussi dans un malheur. Il n'y a que des malheurs dans cette histoire. Je vous passe d'autres histoires de malheurs. Jean Nouvel s'est fâché avec une autre architecte, Brigitte Métra, qui était là, on va dire qu'il était son bras droit pour la conception de la salle de musique elle-même, pour l'invention de l'acoustique. Elle est partie parce que se sentait mésestimée, parce que pas assez payée, parce que son atelier à elle était en train de danguer à cause de cette affaire.
Il y a aussi des entrepreneurs qui ont dû vendre leur entreprise parce qu'ils n'ont pas été payés suffisamment à temps.
Ah, il y a un entrepreneur que j'avais rencontré qui travaille dans le bois, qui avait acheté des nouvelles machines parce qu'il devait fabriquer des éléments en bois de manière extrêmement minutieuse pour cette salle de concert, pour la salle de concert elle-même, et le chantier prenant du retard, il avait investi sur ses machines, il n'était pas payé, il a perdu sa boîte, il n'en était, quand je l'ai rencontré, qu'un employé. Plus, on l'accusait, Brigitte Métra, cet architecte, l'accusait d'avoir dérobé des plans qui lui appartenaient. C'était, je vous passe les détails, j'ai même pas envie de citer le nom de ce monsieur qui a suffisamment souffert, il n'y est pour rien. Ce que je veux dire, c'est que tous les gens qui ont touché à cette histoire, à un moment donné, ont souffert. C'est vraiment les bâtisseurs de cathédrales qui, de temps en temps, les petits ouvriers tombaient, se faisaient écraser. C'était ça.
Et alors, quelle conclusion, Claude Ascolovitch, vous avez envie de tirer de tout ça? Et qu'est-ce qui vous semble, après cette enquête-là, une conclusion qui permettrait de se projeter un peu dans l'avenir?
On aurait été transparent depuis le début, ou on aurait assumé depuis le début qu'en dépit de la grande prise, en dépit des coûts, en dépit des dépassements, ça en valait la peine, on s'en serait mieux porté. Il n'y aurait pas eu de résultat différent aux élections municipales à Paris, ni plus à gauche, ni plus à droite, ça aurait été la même chose. On gagnerait à traiter de manière générale, aussi bien les artistes, les architectes, les musiciens, à les traiter, le public, les citoyens, à les traiter en adultes. Dire la vérité, simplement. Ça éviterait ces espèces de scandales tissés de rapports de la Cour des comptes, d'articles de presse, et d'un grand architecte qui déchire ses vêtements le jour où il devrait au contraire mettre son habit de fête pour aller embrasser le premier chef d'orchestre du premier concert de son magnifique bâtiment.
Voilà, merci à Claude Ascolovitch et puis espérons que cette expérience puisse servir à l'avenir aux architectes et aussi aux hommes politiques afin de cesser ce jeu de poker menteur sur les coûts des édifices publics qui, malheureusement, ne date pas d'hier. Parallèlement, je vous enjoins à aller voir sur Internet les images de la nouvelle philharmonie de Stettin, la 7e ville de Pologne. Elle a été inaugurée en septembre dernier. C'est une salle de 1000 places, moins que les 2400 de la nouvelle philharmonie de Paris. Mais cette salle polonaise n'aura coûté que 30 millions d'euros, soit environ 13 fois moins. Nous la devons aux architectes catalans Fabrizio Barozzi et Alberto Vega. C'était Mode de vie, mode d'emploi à la technique aujourd'hui. Joël Le Guéhennec, réalisation Jean-Christophe Francis, attaché de production Laurence Genepin. La semaine prochaine, nous nous demanderons comment Le Corbusier envisageait ce que devaient être les modes de vie. En attendant, retrouvez-nous sur Facebook et Twitter. Vous pouvez télécharger cette émission sans compter depuis septembre dernier.